C'est la première grande crise du quinquennat d'Emmanuel Macron, cette affaire Benalla. La commission d'enquête parlementaire a donc entendu aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et le préfet de police de Paris, Michel Delpuech. Gérard Collomb se dédouane, renvoyant la responsabilité d'éventuels manquements au préfet de police, lequel dit qu'il pensait que le cas Benalla était traité par l'Élysée, qui employait cet individu. Cette affaire Benalla, scandale d'état majeur, dérive de l'excès de pouvoir de la présidence de la République avec ses réseaux opaques ou, plus simplement, dérive individuelle de quelqu'un de violent, un Rambo immature. Appelez-nous, posez vos questions, 01 45 24 7000 et bien sûr le site de l'émission sur franceinter.fr. Pour vous répondre ce soir, Jean-Philippe Derosier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes constitutionnaliste, professeur à l'Université de Lille. Vous tenez un blog sur le site du Monde, La Constitution décodée, qui offre un regard pédagogique et analytique sur la vie politique française. Sophie Parmentier, bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Sophie Parmentier, journaliste au service Enquête Police-Justice de la rédaction de France Inter. Et au téléphone, Yves Lefebvre. Bonsoir Yves Lefebvre.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
À Lille, Bernard nous écoute et souhaite intervenir et poser une question. Bernard, vous êtes le bienvenu, c'est à vous maintenant.
Oui, bonsoir et bonsoir à vos invités. Alors la question que je voulais poser est en deux volets, parce que visiblement M. Benalla est un récidiviste au niveau des comportements incompatibles avec le service d'une république réprochable comme la voudrait Macron. Incident qui a été rapporté par M. Montebourg à l'époque où il était son chauffeur au ministère des Finances.
Je rappelle,
quasiment.
Voilà, oui, voilà. Bernard, je rappelle qu'il était chauffeur d'Arnaud Montebourg, qu'il a provoqué un accident et qu'il a refusé de s'arrêter. Il a voulu poursuivre son chemin. Et du coup, Arnaud Montebourg l'a licencié.
Voilà. Et malgré ça, ce monsieur est toujours au service de la République. Et la deuxième partie de ma question concernait le ministre de l'Intérieur. Et je voulais savoir quel crédit on pouvait encore apporter et avoir au niveau du ministre de l'Intérieur quand il n'est pas fichu de voir ce qui se passe sous son nez pour traiter des dossiers autrement plus problématiques, ne serait-ce que celui du terrorisme, par exemple.
Sur cette première remarque, cette question, Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, à propos de l'attitude de Gérard Collomb, qui semble très mal informé de ce qui se passe dans son ministère.
Vous savez, ce qui se passe, ça se passe à deux niveaux. Moi, j'ai de cesse de répéter depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, que la préfecture de police de Paris est un état dans l'état au niveau du ministère de l'Intérieur. Et on en fait le constat malheureusement affligeant aujourd'hui. Il est avéré que bon nombre de décisions sont prises au niveau de la préfecture de police de Paris sans même que Gérard Collomb en soit informé, et voire même parfois des décisions qui sont, je dirais, à contre-courant des orientations voulues par Gérard Collomb ou par le directeur général de la police nationale. C'est un état dans l'état et malheureusement aujourd'hui ça explose sous la forme d'une affaire d'état. Effectivement, mais c'est un fait avéré. Moi, j'ai eu dit il y a quelques semaines, sur plusieurs antennes, qu'on était sous une forme de municipalisation, de privatisation de la sécurité parisienne, et c'est gravissime.
Un courriel d'auditeur que je vous lis, Alain, il nous écrit « Benalla a-t-il bénéficié de réseaux dans la police qui lui ont donné un brassard, un accès à la préfecture de police, un accès au système radio de la police ? Finalement, des fonctionnaires de police qui se sont dit « Soyons sympas avec lui, c'est un homme de la présidence que l'on voit en permanence près d'Emmanuel Macron, donc on lui accorde ce qu'il demande. » Que pensez-vous de cette remarque, Sophie Parmentier ? On peut expliquer peut-être tous ces avantages dont bénéficiait Benalla par le fait que des policiers se sont dit, même des gens de la hiérarchie, c'est un gars qui travaille à l'Élysée, on ne peut pas lui refuser.
C'est difficile d'expliquer tous ces avantages. Et ce qui est clair, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de policiers qui sentaient une pression de la part de l'Élysée. Il y a un syndicat de commissaires, le syndicat des commissaires de la police nationale, qui a rappelé que Alexandre Benalla était dans de nombreux services d'ordre aux côtés des policiers. C'est pas la première fois. La manifestation du 1er mai, c'était pas la première fois. Et c'est vrai qu'il y avait comme une pression, parce que vous savez, dans ces manifestations, là, on voit bien les images qui sont placées de la contrescarpe, on voit très clairement les CRS qui sont autour de ce manifestant, qui semble maîtriser, et puis Alexandre Benalla qui arrive derrière, il est casqué avec son casque de la préfecture de police de Paris, et il tente d'interpeller, et les gens se disent, les CRS n'interviennent pas. Alors c'est fréquent qu'il y ait des policiers en civil qui interpellent comme ça en fin de manifestation. Là, il y a une question évidente qui se pose, que savaient les policiers de Benalla? Est-ce qu'ils savaient qu'il était policier, qu'il était là en observateur de l'Élysée? Mais le fait qu'il vienne de l'Élysée, c'est une pression évidente. Alors tous les attributs qu'il a à côté, cette voiture avec gyrophare et tout ça, ça pose beaucoup de questions, en tout cas aux policiers.
Yves Lefebvre, sur le fait que peut-être vos collègues à la préfecture de police se sont dit, il travaille à l'Élysée, on ne peut pas lui refuser certains attributs de la police. On est impressionné par sa fonction.
Oui, impressionné par sa fonction. Pourquoi ? Parce que Benalla a mis en place des réseaux. Il avait pris la main sur le groupe de protection du président de la République, le GSPR. Il menait une quasiment un climat de terreur avec mes collègues policiers qui n'en pouvaient plus d'ailleurs. Ils voulaient réorganiser tout le service et au demeurant pour ni plus ni moins que le privatiser pour mettre, moi j'emploie le mot, il est fort, pour mettre en lieu et place de policiers républicains des barbouzes, ni plus ni moins. Et effectivement, il a créé des réseaux, au sein de la préfecture de police qui lui ont permis d'avoir le port d'armes. Parce que le port d'armes a été refusé par beaucoup. Je suis pas là pour dédouaner Gérard Collomb, mais très loin s'en faut d'ailleurs au demeurant. Mais le Beauvau a refusé le port d'armes qui lui a été accordé par la préfecture de police. Ensuite, on sait que la hiérarchie policière parisienne lui a fourni un gyrophare, un deux-tons, lui a fourni un brassard, même une radio. Alors aussi se pose la problématique, la question par rapport à mes collègues CRS le jour de la manifestation du 1er mai. Mais pour mes collègues CRS, cette personne accompagnait le chef de dispositif, le commissaire qui aujourd'hui, d'ailleurs, au demeurant, est suspendu. Pour eux, c'est un responsable de la hiérarchie policière. Mes collègues CRS, ce jour-là, ne savent absolument pas, je parle des gardiens de la paix, ne savent absolument pas s'il s'agit d'un observateur ou d'un commissaire de police ou d'un contrôleur général. Ils n'en savent rien. Mmh. Pour eux, c'est un flic qui procède ensuite à une interpellation sous le contrôle et sous l'autorité du chef de dispositif. C'est là qu'on pêche énormément.
Jean-Philippe de Rosier.
Oui, simplement ajouter que être collaborateur du président de la République, ce n'est pas n'importe quoi. Et je pense, je ne suis ni dans sa tête, ni dans son entourage, ni parmi les enquêteurs, mais plus que de réseau, c'est de l'abus de pouvoir. C'est-à-dire que M. Benalla a dû user de sa fonction officieuse, car il n'est pas dans l'organigramme officiel, de collaborateur chef adjoint du cabinet du président de la République pour ouvrir et faire ouvrir un certain nombre de portes. Pour quel motif ? Ça, je n'en sais rien, l'enquête peut-être le dira. Était-ce justifié ? Je ne le sais pas davantage. Mais cela a conduit à ce qu'il soit effectivement présent sur les lieux de cette manifestation et qu'il soit perçu par ceux qui l'entouraient, non pas forcément comme collaborateur de l'Élysée, parce qu'il ne le savait pas nécessairement, mais en tout cas comme quelqu'un qui normalement ne devrait pas être là, mais qui est là quand même, et bénéficiant d'une certaine couverture. Donc, en gros, quelqu'un d'important. Si bien que, effectivement, il le regarde faire, et après, on tombe dans cette vrille et cet engrenage de ce jeune homme qui, visiblement, ne contrôle pas bien ses émotions.
Qu'est-ce que le préfet de police appelait aujourd'hui un copinage malsain. On va aller au standard Maurice à Avallon. Bonsoir Maurice.
Bonsoir.
C'est à vous. Posez votre question.
Merci d'avoir pris ma question. La justice ne peut pas convoquer le président de la République à cause de la séparation des pouvoirs. Par contre, la commission d'enquête parlementaire a pu, du jour au lendemain, convoquer le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut imaginer que cette commission parlementaire convoque le président de la République? Premièrement. Deuxièmement, quels seraient les arguments du président de la République de refuser cette convocation? Et troisièmement, pour aller plus loin, est-ce que le Conseil constitutionnel peut donner son avis si le président a le droit ou pas le droit d'aller devant cette commission parlementaire.
Réponse de Jean-Philippe de Rosier, je rappelle, qui est constitutionnaliste et professeur à l'Université de Lille.
Alors, la Constitution empêche que le président de la République réponde à une convocation d'une institution parlementaire. Il y a trois articles, trois règles juridiques qui s'y opposent. D'abord, le principe de séparation des pouvoirs inscrit et consacré à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce principe de la séparation des pouvoirs pouvoirs est assez strictement appliqué pour précisément séparer l'Élysée, le président de la République, du Parlement. Mais ce principe à soi seul ne justifie pas cela, car le principe de séparation des pouvoirs, en réalité, appelle un contrôle d'un pouvoir sur un autre. À cela s'ajoute l'article 67 alinéa 1er de la Constitution qui pose l'irresponsabilité du président de la République. L'irresponsabilité, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il ne doit pas répondre de ses actes. Il est irresponsable politiquement, sauf devant le peuple. Le seul qui peut effectivement sanctionner le président de la République, c'est le peuple au terme de son mandat, ou s'y est activé l'article 68 de la Constitution, qui peut conduire à sa destitution, et à ce moment-là, effectivement, il y aurait une nouvelle élection du président de la République. Et troisième élément, troisième règle juridique, l'article 18 de la Constitution, qui limite strictement les cas dans lesquels le président de la République peut intervenir au Parlement. Il en a fait usage il y a 15 jours, en convoquant le Parlement en Congrès pour faire une déclaration devant lui. Cette déclaration devant le Congrès et la communication par voie de message également prévue par l'article 18 sont les seuls cas où le président peut intervenir au Parlement. En dehors de cela, ce n'est pas possible, la Constitution ne le permet pas. Et pour répondre sur le Conseil constitutionnel à notre auditeur, non, le Conseil constitutionnel, cela ne relève pas de ses compétences, il s'occupe de la constitutionnalité de la loi et il ne rend pas des avis sur ce que peut faire ou ne pas faire le président de la République.
Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon demandent l'audition d'Emmanuel Macron devant la commission d'enquête parlementaire. Donc cette demande
ne pourra pas prospérer. D'ailleurs, Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois et présidente de cette commission d'enquête, a confirmé que ce n'était pas possible.
Patrice, dans la Meuse. Bonsoir Patrice, merci d'être avec nous.
Bonsoir, merci. Je veux savoir, sur le plan légal, quel est le réel champ d'investigation dévolu aux observateurs attachés au pouvoir exécutif en collaboration avec la police. Il faut savoir qui est quotidiennement habilité à en prévenir les abus éventuels. Je dois dire que j'ai l'impression que l'affaire Benalla, c'est un arbre qui cache une très grosse forêt et que la véritable problématique n'a encore pas été abordée. Je ne sais pas si je peux développer mon argument.
Allez-y, pas trop longtemps, parce qu'on a beaucoup d'appels. Oui. Quelle est la véritable problématique, selon vous ?
Ben moi, la véritable problématique, c'est les intentions réelles du pouvoir en matière de sécurité. J'ai écouté attentivement Gérard Collomb ce matin. On comprend que les forces de police, grâce à leurs services spécifiques, ont des renseignements très précis sur des risques encourus, soit sur le plan du terrorisme, soit sur le plan des manifestations à haut risque, ce qui semble être le cas pour le 1er mai, ce que l'on peut comprendre. Mais en même temps, on a un pouvoir exécutif qui profite d'un climat incertain pour user des moyens de pression disproportionnés. Par exemple, qu'on m'explique pourquoi on envoie 500 gendarmes pour déloger 20 manifestants dont le nombre était forcément connu des forces de l'ordre, qui occupaient un certain bois le Jus l'hiver dernier près de Bure. Pourquoi on arrête un avocat ? Pourquoi on perquisitionne chez lui ? S'il n'y a mettre une pression permanente pour intimider les opposants. Donc, on est ici dans un pouvoir exécutif aux abois, parce que ces collusions avec des lobbies sont au grand jour, et au-delà de l'affaire Benalla, eh bien, le dévoiement d'arguments sécuritaires, c'est la véritable problématique.
Bon, là, vous extrapolez sur d'autres sujets, on reste sur l'action de cet individu qui travaillait à la présidence de la République, qui est intervenu de façon violente. Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, vous voulez réagir à ce que vient de dire Patrice?
Oui, je veux réagir. Oui, effectivement, je crois qu'il ne faut pas. Vous avez parfaitement répondu. Il ne faut pas qu'on extrapole, qu'on tombe dans des dérives par rapport à tout ça. Bien évidemment, qu'on voit poindre le spectre derrière, que d'entendre dire par certains partis, par certaines organisations syndicales, eh ben vous voyez, les manifestations sont infiltrées. Non, c'est faux. Non, c'est entièrement faux. On a le cas de l'observateur est un cas bien prévu. On peut avoir des observateurs qui, d'ailleurs, au demeurant, peuvent être des magistrats, peuvent être des journalistes, peuvent être souvent des personnes qui sont, je dirais, dans un cycle de formation au niveau de l'Institut des hautes études de la sécurité et de la justice. Et mais leur rôle est effectivement un rôle d'observateur. Ils sont là pour regarder, pour apprendre, mais ils doivent, bien évidemment, parfois être équipés d'un casque, parce qu'il faut quand même qu'on prévoie la sécurité de ces personnes, mais jamais, jamais, jamais équipés d'une radio, et encore moins, bien évidemment, équipés d'une matraque. Non, là, on est sur un cas véritablement ponctuel. On est sur un individu d'un peu plus de 25, 26, 27 ans. On est sur un personnage qui, je pense, a toujours rêvé d'être flic, mais qui n'a jamais eu la capacité à l'être, et fort heureusement d'ailleurs pour les policiers que je représente. Mais là, on est vraiment sur une... Par contre, on est sur une dérive, sur un phénomène... Alors, il ne faut pas extrapoler, mais on est sur un phénomène vraiment de ramification de la... Je dirais, de la... de l'importance que peut représenter un émissaire du président de la République dans les rangs des hauts responsables de la police nationale, parce qu'on est placé là quelque peu sur l'autel du carriérisme, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'on va certainement vouloir rendre service à ce monsieur Benalla du temps où il était en responsabilité à l'Élysée. Pourquoi ? Parce que derrière, ben, ça peut être des portes de sortie pour certains hauts responsables. Ouais. Ou responsable de la police nationale. C'est ça le souci aujourd'hui.
Est-ce que finalement on n'a pas affaire à un individu qui travaille à l'Élysée et qui se croit tout permis ?
Si, bien sûr. Mais qui travaille en se croyant tout permis, qui se permet quand même d'avoir des réseaux lui permettant de, ouais, d'être convaincu, voilà, d'être, je dirais, d'être permis à tout, d'avoir toutes les portes ouvertes. Et notamment, et le SCPN, le syndicat commissaire de la police nationale, a fort judicieusement bien fait remarquer qu'il faisait partie de bon nombre de manifestations à risque. Et ce, depuis l'élection de Emmanuel Macron à l'Élysée.
Sophie Parmentier.
Non, sur sa qualité d'observateur, peut-être qu'Alexandre Benalla se croyait tout permis, mais sur sa qualité d'observateur, il avait le droit, en effet, d'avoir un casque de la préfecture de police de Paris. C'est ce qui lui a été attribué. Alors maintenant, il y a la question de savoir s'il faut changer les signes de l'observateur. C'est la question que pose le ministre de l'Intérieur ce matin. Est-ce qu'il faut mettre une chasuble? On voit que Alexandre Benalla n'en avait pas. En tout cas, il n'avait aucunement le droit d'avoir cette radio de la police, la radio Acropole, ni le bras Sarpolice, et il faut bien rappeler qu'il a été mis en examen par la justice, il y a une information judiciaire qui est ouverte, et que, entre autres, il a été mis en examen hier, Alexandre Benalla, pour immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, port public et sans droit d'insigne réglementé. Donc même s'il s'est cru tout permis, eh bien là, il y a une information judiciaire ouverte avec une juge d'instruction qui, hier, l'a mise en examen, et l'enquête va se poursuivre. Je vous rappelle que 5 hommes ont été mis en examen hier.
Courriel d'auditeur, je vous le lis. Y a-t-il eu mensonge d'État? Le porte-parole d'Emmanuel Macron a dit que Benalla avait été mis à pied 15 jours et demi et 15 jours et démis de ses fonctions sur la sécurité du président. C'est faux. On l'a vu le 14 juillet, place de la Concorde, tout près du président. On l'a vu à Giverny lors d'un déplacement privé d'Emmanuel Macron et lors de l'arrivée des Bleus sur les Champs-Élysées. Quelle sanction pour un mensonge d'État du porte-parole de l'Élysée, Bruno Roger Petit. Jean-Philippe Derosier.
Alors, sur la sanction elle-même du porte-parole de l'Élysée, je pense que le porte-parole, comme son nom l'indique, porte la parole, et que le texte qu'il a lu lors de sa déclaration tout à fait inhabituelle n'a pas, peut-être pas été écrit par lui, et certainement pas validé par lui-même, mais en haut lieu. Donc en réalité, la sanction, c'est contre tous ceux qui ont organisé cela. Alors, il peut y avoir des sanctions, le cas échéant disciplinaires, à l'instar de celles qui ont été prononcées contre Alexandre Benalla, mais je ne pense pas que, en l'espèce, contre le porte-parole, ce soit cela qui est prévu. Les sanctions sont à plus long terme, c'est-à-dire que là, on a cette commission des lois dotée des pouvoirs de commission d'enquête qui va enquêter, justement, qui va convoquer des membres du cabinet de l'Élysée. Alors, la commission des lois de l'Assemblée nationale, je ne sais pas si elle a pris la décision de le faire, mais en tout cas, au Sénat, il y a le même cas de figure, et le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, est convoqué jeudi matin par cette commission des lois au Sénat, et on aura un certain nombre d'informations. Mais si vous me permettez d'ajouter un point par rapport à cette question de courriel, et également en réaction à cet arbre que cacherait la forêt, souligné par notre auditeur tout à l'heure, il y a peut-être un arbre qui cache la forêt. À savoir que il est évident que Emmanuel Macron, dès le 2 mai, savait ce qui s'est produit. À savoir qu'il avait un de ses collaborateurs, chef adjoint de cabinet, qui a commis des actes inadmissibles. Il n'a été sanctionné que par une mise à pied de 15 jours. Ce qui est quand même pas une sanction, c'est une sanction importante, mais qui n'est quand même pas absolument d'une gravité à la proportion des actes. Donc si, en d'autres termes, s'il ne le licencie pas immédiatement, c'est qu'il le protège. Et la vraie question, c'est pourquoi le protège-t-il? Pour quelle raison? Je ne peut pas croire que c'est juste par amitié vis-à-vis du personnage. Quand on voit à quel point est-ce qu'il sait être strict sur la République exemplaire, à quel point est-ce qu'il ne tolère pas que son chef d'état-major des armées s'écarte un tant soit peu de la parole présidentielle et qu'il le vire du jour au lendemain, et là il fait preuve de clémence vis-à-vis de l'un de ses collaborateurs. Non, je pense qu'il y a autre chose derrière, qui a d'ailleurs été évoqué tout à l'heure par rapport à cette privatisation de la sécurité du président, et c'est là où il y a vraiment peut-être une affaire d'État. Parce que si le chef de l'État, c'est-à-dire le premier personnage de l'État français, ne fait pas confiance à la sécurité qui, et aux hommes et aux femmes qui institutionnellement sont chargés de sa sécurité, fait appel à une privatisation de cette sécurité autour de lui, il y a véritablement un problème. Si l'on débouche vers de la barbouzerie, comme ça a été souvent évoqué, si l'on est conduit à une milice privée au sein de l'Élysée, tentons et osons le terme, là je crois qu'il y a un vrai problème dans la maison Élysée qui implique directement le président de la République et que cela pourrait avoir des conséquences politiques, constitutionnelle et juridique, bien plus importante que cette simple commission d'enquête, entre guillemets.
Quelles conséquences ?
Ça peut aller, évidemment, jusqu'au licenciement d'autres membres du cabinet, mais si le président de la République est impliqué lui-même et directement, il y a l'article 68 que j'évoquais tout à l'heure, qui peut conduire à la destitution du chef de l'État. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il faut l'appliquer, mais tout dépend des faits qui seront révélés par ces commissions d'enquête, qui enquêtent sur des faits. Ce ne sont pas des poursuite pénale, c'est bien faire la vérité sur un point. Et donc si l'on se rend compte que Emmanuel Macron était en train de mettre en place une milice privée au sein de la maison Élysée, il faudra peut-être réfléchir à effectivement voir si cet acte n'est pas manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat, comme le prévoit l'article 68, et à ce moment-là engager une procédure de destitution qui peut, je le signale, être engagée depuis le Sénat, où le président de la République n'a pas la majorité.
Commentaire d'auditeur, ne pensez-vous pas que tout simplement que la présidence n'a pas mesuré la gravité d'un geste, frappé des manifestants quand on n'est pas policiers, et à l'Élysée, ils se sont dit « Emmanuel Macron l'apprécie, c'est un fidèle, allez, 15 jours de mise à pied sans salaire, la punition est suffisante, est-ce une coupable indulgence ? S'il avait été licencié tout de suite, l'affaire n'aurait pas eu le même retentissement. » Ralid à Paris veut intervenir, bonsoir Ralid.
Bonsoir.
Allez-y, vous êtes sur l'antenne, c'est un téléphone portable, c'est...
Oui,
bon, mais
oui,
ça va.
C'est un téléphone portable.
On vous entend, c'est bon.
Faire en sorte que... Alors, j'apprécie beaucoup là, ce qui vient d'être dit au conditionnel, mais je voulais simplement dire que cette affaire est grave, inacceptable, et le congédier était le minimum à faire. Oui. Ceci étant dit...
C'est fait maintenant, il a été
voilà,
licencié.
Voilà, il a été congédié. Bon. Ceci étant dit, pour ceux qui ont la mémoire longue, et compte tenu de mon âge, j'en fais partie, et qui se souviennent, pour avoir eu un regard étranger en ce qui concerne, naguère, où j'ai pu comparer très jeune l'Angleterre et la France, étant moi-même d'origine marocaine, marocain aussi, double nationalité, eh bien, ça signe aussi l'amélioration qualitative de la démocratie française. Enfin, souvenons-nous, ce type de choses, 10 fois plus grave. Je vais remonter au commandeur pour que j'ai une immense admiration, comme tous les Français, sous le général de Gaulle, enfin, sous Pompidou un petit peu, sous Giscard, et bien sûr sous Mitterrand. Souvenez-vous quand même de toutes ces affaires qui n'avaient aucun écho et ne faisaient trembler absolument pas nos institutions. Donc je crois qu'il faut raison garder, dire à nos jeunes notamment de banlieues qui parfois doutent de leur attachement à cette nation, je dis parfois, ou à leur francité, que nous avons de plus en plus une démocratie à peu près comparable à celle des grandes nations qui nous entourent. Je me souviens jeune que nous étions regardés avec effroi lorsqu'il y avait une garde à vue, avec des gens attachés au radiateur. Enfin, voilà, je crois que quand même, relativisons.
Merci de nous avoir appelé, Galid, Ralid. Jean-Philippe de Rosier, c'est vrai que finalement, cette affaire montre que la démocratie française fonctionne bien grâce à la presse.
Oui, tout à
c'est
fait.
Encore une révélation de la presse
une révélation.
Qui permet de découvrir un fonctionnement
Vous retirez la couverture à vous, mais c'est tout à votre honneur.
Fait. C'est le Monde qui a sorti
la presse est tout à
cette
là,
affaire.
Et elle est parfaitement dans son rôle. En tout cas, en l'espèce. Et j'ai beaucoup de respect pour la presse en général. Cela prouve également que le Parlement est indispensable. Cela prouve également que le Parlement a des pouvoirs de contrôle qu'il est en mesure d'exercer, ce qu'il fait là actuellement. Cela conforte l'idée qu'il ne faut pas réduire le pouvoir du Parlement. Et je fais là le lien avec le texte qui était en discussion au moment où l'affaire a éclaté, c'est-à-dire le projet de loi constitutionnelle, qui tendait à réduire les prérogatives du Parlement, soi-disant en renforçant ses pouvoirs de contrôle. Mais on aurait vu si jamais elle devait aboutir qu'en réalité il n'en est rien. Et donc effectivement, la démocratie fonctionne bien. J'ai toujours défendu l'idée qu'elle a toujours bien fonctionné et que pour qu'elle fonctionne bien, il faut des hommes pour effectivement la faire fonctionner. Et là, on en a la parfaite illustration.
Oui, je rappelle donc que c'est Le Monde qui a révélé cette vidéo où on voit cette intervention très musclée de Benalla. Donc il y a l'importance de la presse dans la démocratie. Puis il y a aussi, évidemment, Sophie Parmentier, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est très difficile qu'une affaire qui a été filmée par des gens, par des passants, ne soit pas un jour ou l'autre divulguée.
Oui, mais ce qui est intéressant de noter dans cette affaire, c'est que justement la vidéo, elle apparaît sur les réseaux sociaux début mai, en fait, très peu de temps après la manifestation, le 3 mai. Enfin, d'ailleurs, elle est vue par les policiers et par ceux qui font remonter l'information à l'Élysée et qui s'affolent de voir Benalla sur ces images. Sauf qu'il n'y a pas vraiment, de retombées. Et puis, il faut préciser aussi que les deux jeunes manifestants qui finalement ont été interpellés. Alors Benalla n'avait pas le droit de les interpeller, mais en fait ils ont été interpellés, ils ont été amenés dans le 18e arrondissement de Paris, et là ils ont donné en fait une fausse identité, ils n'ont pas porté plainte, ces deux manifestants. Et peut-être que s'ils avaient porté plainte, peut-être que s'il y avait eu des jours d'ITT, peut-être que les choses se seraient passées autrement. Mais là, indéniablement, l'Élysée s'est sans doute dit, bon, en fait, on en reste là, même si c'était sur les réseaux sociaux, et personne n'a saisi non plus la justice, alors qu'avec l'article 40, en fait, le préfet de police, ou en tout cas la justice aurait pu être saisie. À ce moment-là, on en reste là. Après, on peut dire que la presse a agi et que la justice aussi, en tout cas ces derniers jours, est allée très vite avec l'ouverture de l'enquête, la garde à vue de Benalla très vite, qui a duré 36 heures, et puis très vite l'ouverture de l'information judiciaire. Ça ne va pas toujours aussi vite.
Je précise que les deux manifestants frappés par Alexandre Benalla se sont constitués partie civile.
Exactement.
Qu'est-ce que ça peut changer dans le déroulement de l'enquête, Sophie ?
Eh bien, en fait, ils apparaissent dans cette enquête, ils portent plainte en fait en quelque sorte. Et d'ailleurs, ils demandent à être entendus alors qu'ils n'avaient pas demandé jusqu'alors. Et donc là, ils vont être entendus. Ils ont un avocat et l'enquête va poursuivre son cours avec donc cette juge d'instruction qui a été nommée hier. Mais en tout cas, ces deux jeunes manifestants vont être entendus. Alors il y a des versions différentes. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur devant les parlementaires a dit qu'ils auraient lancé des canettes contre les policiers. C'est une version qui est contredite. Donc l'enquête fera la lumière sur ce qui s'est réellement passé le 1er mai, place de la Contrescarpe à Paris.
J'évoquais le rôle de la presse et aussi des réseaux sociaux. On nous écrit sur le site de l'émission « Le pouvoir d'Emmanuel Macron est discrédité ». Il suffit de voir l'ironie générale sur les réseaux sociaux. On parle 1,5 million de tweets sur le sujet. On lit par exemple « Orange Macronique », référence au film de Stanley Kubrick « Orange Mécanique » où on voit des voyous ultra-violents. On lit aussi « Emmanuel Macron a réagi plus vite avec sa vidéo quand il rudoie un jeune qui lui a manqué de respect. Là, c'est le silence radio. » Jean-Philippe de Rosier, c'est une mauvaise affaire aussi en termes de communication pour Emmanuel Macron.
Ce qui est surprenant, au-delà d'Emmanuel Macron, c'est le silence dans lequel se plonge l'exécutif en général. Emmanuel Macron nous a prouvé depuis sa prise de fonction en mai dernier, en mai 2017, que c'est lui qui maîtrisait les horloges de la communication. C'était sa grande phrase. Et donc, à mon avis, à un moment donné, il s'exprimera, mais au moment que lui aura décidé. Pensant ainsi, peut-être à juste titre, créer une nouvelle forme de verticalité et de dignité de la fonction présidentielle. Et quelque part, je trouve ça relativement sain que le président de la République n'ait pas à répondre à tout bout de champ à des interpellations de qui que ce soit, notamment des journalistes. En revanche, ce qui est véritablement surprenant, c'est que pas un ministre, pas un membre du gouvernement. Le Premier ministre a fait une petite phrase au détour d'un déplacement, mais cette exception-là, pas un membre du gouvernement ne s'est exprimé sur le sujet. Sauf la garde des Sceaux, puisqu'elle était présente en séance au moment, justement, où il y avait le débat sur la révision constitutionnelle, mais c'est la moins à même de participer et d'intervenir dans le débat, puisque du fait de ses fonctions sommet de la hiérarchie du judiciaire, elle ne peut pas interférer dans des procédures judiciaires. Le porte-parole du gouvernement, le ministre des Relations avec le Parlement, par ailleurs également président du mouvement En Marche, n'ont rien dit, ni l'un ni l'autre, alors même que M. Castaner était présent dans les locaux de l'Assemblée. C'est pas qu'il était occupé à faire autre chose, il était bien dans les locaux de l'Assemblée, il répondait de ci, de là à la presse, mais il n'a pas eu de communication officielle. Il avait le temps de s'interpeller avec Mme Le Pen, il avait le temps d'essayer de gérer la crise, mais pas visiblement de répondre aux parlementaires, aux députés et aux attentes des Français.
Seule réaction d'Emmanuel Macron, je le rappelle, hein, sous la pression, le président a promis hier soir, via son entourage, la vérité sur ce dossier. Il juge le comportement d'Alexandre Benalla inacceptable et dit qu'il n'y aura pas d'impunité. Toujours selon son entourage, il a ordonné une réorganisation de ses services à l'Élysée pour éviter qu'un tel dysfonctionnement se reproduise. C'est tout ce que nous avons pour l'instant comme réaction du chef de l'État. Sophie Parmentier ?
Non, on peut juste rappeler peut-être que quand l'affaire a éclaté, il y a quelques jours, Emmanuel Macron avait simplement dit « la République est inaltérable ». Il n'avait pas dit que les faits étaient, ce comportement était inacceptable. Et au tout début, vous vous rappelez que quand Alexandre Benalla est sanctionné par l'Élysée, eh bien, on parle d'un comportement inapproprié, donc il y a vraiment un écart dans de langage, en fait, un fossé énorme à noter.
François est très patient, il est au bout du fil depuis presque 20 minutes. François, pardon, vous êtes en Haute-Savoie, maintenant vous êtes en direct sur l'antenne, bienvenue.
Bonsoir, j'ai appris récemment en fait, que cette personne en fait, portait les galons de lieutenant-colonel à 26 ans, lieutenant-colonel de réserve de gendarmerie. Et je voulais avoir plus de renseignements quant à l'obtention de ces galons qui pour moi sont des galons d'opérette. Et puis mes pensées vont surtout aux proches du lieutenant-colonel Beltram, qui lui pour le coup avait obtenu ces galons avec une carrière réelle au service de la France.
Une véritable carrière militaire. Sophie Parmentier, c'est vrai que c'est surprenant hein, ce grade de lieutenant-colonel de réserve.
Oui, ça surprend beaucoup et ça fait beaucoup réagir des gendarmes qui justement sont lieutenant-colonel et qui rappellent que c'est en général vers 40, 45 ans, enfin en tout cas après une longue carrière, souvent qu'on devient lieutenant-colonel après avoir fait beaucoup de missions difficiles et donc ça surprend qu'Alexandre Benalla soit devenu lieutenant-colonel à 26 ans. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que en fait il est gendarme réserviste, il est devenu gendarme réserviste très très jeune en fait, en 2009, il est rentré dans la réserve opérationnelle où il aurait pu, en fait dans la réserve opérationnelle en fait on peut faire une trentaine de jours par an, exercer des missions avec un port d'armes et puis en 2017 il a décidé d'abandonner cette réserve opérationnelle et de rentrer dans la réserve opérationnelle spécialisée en tant qu'expert en fait avec son nouveau job à l'Élysée et c'est à ce moment-là qu'il est devenu lieutenant-colonel à ce titre d'expert. Alors ça fait quand même grincer des dents parce qu'il y en a beaucoup qui estiment que ben à 26 ans on n'est pas expert. On peut rappeler que Vincent Crase, vous savez son comparse qui était place de la Contrescarpe à Paris, le gendarme réserviste de la République en marche, lui, il était dans la réserve opérationnelle. Donc lui, il avait le droit de porter une arme quand il était en mission, mais ce jour-là, ben il n'était pas en mission, il était au milieu des CRS et en fait, il n'avait pas le droit de porter son arme.
Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, est-ce que là encore, on peut imaginer que, voilà, on sait que cet individu travaille à l'Élysée, près du président Emmanuel Macron, qu'il l'a côtoyé pendant la campagne présidentielle, qu'on le voit en permanence à ses côtés, et donc, ben voilà, on y va très vite pour les grades.
Ah oui, on y va très vite pour les grades. Vous savez, moi j'ai des milliers de fonctionnaires de police qui attendent aujourd'hui simplement de passer brigadier chef de police, et qui au demeurant doivent attendre parfois 20 ou 30 ans pour le faire, et qui tous les jours risquent leur peau au quotidien, tous les matins ils partent sans savoir s'ils vont pouvoir rentrer le soir. Donc bien évidemment ça aussi c'est scandaleux, on est effectivement dans une armée mexicaine, on est dans une république pour le moins un peu bananière à travers tout ça. Bon, on peut toujours nous avancer, j'ai vu hein, la réponse de la Direction Générale de Gendarmerie Nationale qui effectivement considère que c'était le niveau d'expertise de cette personne qui lui permettait d'accéder à ce grade, mais au demeurant, quel niveau d'expertise avait cette personne? On sait qu'il est passé par la sécurité à un moment donné du Parti Socialiste, il a été ensuite chauffeur d'Arnaud Montebourg, et in fine, il s'est retrouvé garde du corps du candidat Macron, et ce qui lui a permis derrière d'avoir le déroulement de carrière qui est le sien. manifestement, on est sur un... Moi, je qualifierais presque l'attitude de cette personne de mythomane. Il a toujours rêvé d'être policier ou gendarme. Et là, ben, c'est les portes ouvertes. Vous savez, quand on est à l'Élysée, quand même, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, manifestement.
Ouais, voilà.
Et qui plus est, je l'ai dit tout à l'heure, sur des gens qui sont, pour le moins, sensibles à, je dirais, à des avancements, à des... facilité de déroulement de carrière, mais ça ne concerne encore que le haut du chapeau, vraiment, du ministère de l'Intérieur aujourd'hui. Ouais. Parce que nous, gardiens de la paix, on n'a rien à attendre et à espérer de ce genre de d'individu.
Marc, dans le Nord. Bonsoir, Marc.
Bonsoir, Pierre Veil. Bonsoir à tous. Avant de vous poser ma question, je voulais faire une petite réflexion. Le dicton populaire dit « qui veut faire l'ange fait la bête ». Que dire alors de celui qui voulait être Dieu ou Jupiter ? On voit qu'il a dû faire alliance avec le diable.
Bien. Votre question, Marc, on n'a plus tellement de temps. Il est 19h56, malheureusement.
Ma question, l'Assemblée nationale était en train d'examiner la réforme constitutionnelle. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'aller plus loin dans cette réforme et d'en finir avec cette 5e République et avec ce président omnipotent ? Les Français aiment, paraît-il, un président monarque. Il serait peut-être temps qu'ils grandissent et apprennent vraiment ce qu'est la démocratie.
Voilà, pour vous, un président monarque, c'est ce qui pourrait expliquer ses dérives, Marc ?
Vraisemblablement.
Jean-Philippe Durosier, je rappelle, constitutionnaliste.
Oui, alors, plusieurs éléments de réponse, mais très courts, parce que j'ai bien en tête l'heure. Peut-être que Alexandre Benalla a fait une victime collatérale qui est la révision constitutionnelle, puisque son examen a été suspendu, renvoyé à la rentrée. L'ordre du jour de la rentrée est déjà tellement surchargé que je ne vois pas trop comment est-ce qu'ils vont pouvoir l'intégrer. Ce ne serait pas une mauvaise chose, parce que cette révision constitutionnelle-là avait pour objectif de réduire les pouvoirs du Parlement de façon assez scandaleuse. Elle était véritablement antiparlementariste. Pour répondre à la question de l'auditeur, faut-il en finir avec la 5e République ? C'est un argument qui revient très régulièrement, notamment au cours des campagnes électorales. Et précisément parce qu'il revient au cours des campagnes électorales, on peut, je crois, affirmer sans crainte que les Français ne le souhaitent pas. Parce que systématiquement, ils élisent un président de la République qui ne va pas dans cette direction de remise en cause de la Ve République. Peut-être que cela changera en 2022, je ne le sais pas. Mais en tout cas, en 2017, ils ont fait le choix d'élire Emmanuel Macron, qui était celui qui même avait pris l'engagement de revenir aux fondamentaux de la Ve République, oui, d'exercer le pouvoir à la manière du général de Gaulle. Ils n'ont pas élu Jean-Luc Mélenchon, qui s'engageait à passer à la VIe République. Et ce président, je termine là-dessus en 10 secondes, ce président omnipotent ne l'est que s'il a le soutien de l'Assemblée nationale. Ce sont les élections législatives qui donnent le pouvoir et pas les élections présidentielles. François Hollande, qui n'avait pas une majorité aussi importante qu'Emmanuel Macron, n'avait pas un pouvoir aussi important qu'Emmanuel Macron.
Le porte-parole du gouvernement, Monsieur Griveaux, Benjamin Griveaux, à l'instant dénonce un tribunal politique à propos de cette commission d'enquête parlementaire. Qu'en pensez-vous, Jean-Philippe Durosier ? C'est la polémique politique ?
Non, je pense qu'il réagit comme ça parce qu'il n'a pas d'autre argument, mais le Parlement est parfaitement dans son droit. Oui. Le Parlement est là pour contrôler notamment l'exécutif, et c'est exactement ce qu'il fait en menant l'enquête et par la commission de loi dotée de ses pouvoirs d'enquête.
Et ce commentaire en fin d'auditeur, on reproche à Emmanuel Macron de ne pas parler, de ne pas l'avoir fait très vite, oui, mais quand un président intervient vite, on le lui reproche aussi. Souvenez-vous de François Hollande qui avait conclu lui-même à la télévision l'affaire Leonardo. D'un mot, qu'en pensez-vous, Jean-Philippe Durosier ?
Je suis globalement d'accord. Et tout à l'heure, comme je l'ai souligné, je crois que Emmanuel Macron a raison de rétablir une certaine distance dans la réaction immédiate, parce que il est le président de la République. Ce n'est pas n'importe qui. En revanche, ce qui est déplorable, c'est que l'exécutif, c'est-à-dire tous ceux qui l'entourent, le gouvernement, lui, n'ait pas réagi plus rapidement. C'est la première réaction, je crois. Vous avez cité de Benjamin Griveaux. C'est la première fois qu'il intervient dans le débat depuis que les faits ont été révélés mercredi soir.
C'était le Téléphone Sonne. Merci à nos invités. Sophie Parmentier, journaliste au service enquête police-justice de la rédaction de France Inter. Jean-Philippe Durosier, constitutionnaliste et professeur à l'Université de Lille. On peut lire son blog sur le site du Monde, La Constitution décodée. Et puis au téléphone, Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. À demain soir, 19h20.